Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et sur Europe 1 tous les jours, nous commençons l'après-midi au cœur de l'histoire en compagnie de Franck Ferrand, bien sûr. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors j'aurai l'occasion de vous le redire, mais sachez déjà que mercredi soir sur France 3, je vous donne rendez-vous pour un numéro spécial de l'ombre d'un doute consacré à l'un de mes chevaux de bataille, l'affaire Corneille-Molière.
Ah oui,
nous y venons. Nous allons creuser la piste de cette collaboration active entre deux grands hommes du théâtre français. C'est donc mercredi, le 9 janvier sur France 3, avis aux amateurs de grandes enquêtes.
Et aujourd'hui au micro d'Europe 1, vous recevez la romancière Irène Frein.
Oui, Irène Frein qu'on ne présente pas évidemment et qui nous livre un ouvrage passionnant, inattendu, sur la grande passion amoureuse de Simone de Beauvoir. Il ne s'agit pas de Jean-Paul Sartre, mais d'un écrivain américain, juif et communiste, Nelson Algren.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a un gros quart de siècle, le 14 avril 1986, exactement 6 ans après son compagnon Jean-Paul Sartre, mourait à Paris, l'une des grandes figures du féminisme, adulée par les uns comme une femme de lettres et d'engagement hors du commun, honnie par d'autres comme une personne dogmatique et manipulatrice, Simone de Beauvoir, l'auteur à grand succès du Deuxième Sexe, des Mandarins et des Mémoires d'une jeune fille rangée, en même temps que l'égérie du milieu existentialiste. De la vie privée de celle que Sartre et ses amis avaient surnommée le Castor, on connaît surtout les derniers attachements, une relation avec le jeune Claude Lanzmann, des liens si forts avec sa fille adoptive Sylvie Lebon. On revient aussi, avec plus ou moins de complaisance, sur un certain nombre de liaisons féminines, dont celle avec Bianca Binnenfeld, qu'il avait fait renvoyer du corps enseignant du lycée Molière en 1939, puis celle avec Nathalie Sorokine, qu'il avait fait suspendre de l'éducation nationale sous l'occupation en 1943. Généralement, dans les notices biographiques, une ligne est enfin consacrée au romancier américain Nelson Algren, avec lequel on lui prête une relation passionnelle et, ce qui n'est pas fréquent chez elle, charnelle. C'est cette mention, souvent incidente, c'est cette piste inattendue qu'Irène Frein a choisi de suivre, de creuser dans une enquête intimiste pleine de surprises, intitulée « Beauvoir in Love » et que publie Michel Lafond. On y suit pas à pas Simone de Beauvoir dans sa grande passion amoureuse, sur fond d'Amérique d'après-guerre. Alors, pas l'Amérique à laquelle on songe d'ordinaire, celle des grosses voitures aux pare-chocs chromés, des pavillons de banlieue avec leurs jolies pelouses, des comédies musicales sur Broadway et des westerns en technicolor. L'Amérique d'Algren, ce serait plutôt celle des arcades du métro aérien de Chicago, tout empanachée de vapeur, peuplée d'une moderne cour des miracles bien propre à fasciner en Beauvoir la femme à l'écoute des bas-fonds. Pas l'Amérique des big bands, si vous voulez, plutôt celle du blues.
Oh, fine romance with no kisses. Oh, fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes.
Billie Holiday sur Europe 1 avec Fine Romance.
Il y a un gros quart de siècle, le 14 avril 1986, exactement 5 ans après son ancien partenaire Nelson Algren, mourait à Paris l'une des grandes figures du féminisme, jusqu'au bout. Et malgré une rupture consommée, Simone de Beauvoir aura conservé tout près de son lit le paquet épais de toutes les lettres de Nelson et jusque dans la mort, elle aura gardé au doigt l'anneau qu'il lui avait offert.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et en compagnie d'Irène Frein aujourd'hui sur Europe 1, auteur notamment de Beauvoir in Love chez Michel Lafond-Franck.
Bonjour Irène Frein.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rendre visite avec et de nous donner ce nouveau livre. Vous êtes vraiment constamment, vous, à la frontière entre le roman et l'histoire. C'est-à-dire que vous nous livrez de grands récits très habités dans lesquels on se plonge exactement comme dans un roman, mais ce sont des romans extrêmement précis, détaillés, et vous faites une enquête minutieuse. Vous allez à chaque fois sur les lieux mêmes où se passent, où se sont passées les choses. Là, en l'occurrence, vous avez mené l'enquête de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, les lieux racontent les gens, hein. D'ailleurs, regardez les magistrats, instructeurs ou les policiers, ils vont d'abord voir les lieux. ou un peu, je pense à Maigret dans Simenon,
oui, c'est ça,
on hume l'ambiance. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé tous les lieux. Le lieu du coup de foudre au mètre près,
ouais.
À un hôtel de luxe à Chicago.
Qui n'a pas changé quasiment.
Absolument pas changé.
Vous décrivez les miroirs, les couloirs, en fait.
Absolument.
Tout, ouais.
Et Nelson Algren qui arrive, lui, d'un quartier complètement pourri, pourrait-on dire, de la banlieue, où il s'est retiré pour pouvoir écrire sur les exclus, parce que les exclus de la société américaine, l'envers du rêve américain, c'est son domaine. Et il est méfiant, parce que c'est un homme qui a vécu sur la route bien avant Kerouac, au temps de la Grande Dépression, qui était une répression d'ailleurs. Il a fait de la prison pour avoir volé une machine à écrire. Il était journaliste, il n'avait pas de travail, il avait besoin de machine à écrire. Et il est tellement méfiant qu'il prend Simone de Beauvoir pour un agent du FBI quand même, parce qu'il est surveillé.
Nous allons voir tout à l'heure, ce sera le sujet de mon récit, à quel point dans cette époque il y avait une espèce de psychose collective aux États-Unis, et c'est la grande époque des tout débuts de ce qui va devenir la chasse aux sorcières. On y viendra tout à l'heure. À la fin de sa vie, enfin sur le tard, Al Green s'est mis à faire des collages.
Oui.
Vous en avez retrouvé un, vous qui
oui,
êtes...
j'en ai retrouvé un parce que je suis allée à Columbus, dans l'Ohio, où sont les archives de Nelson Algren, déposées par ses soins, et dans les caves. J'ai trouvé un gigantesque collage de plus d'un mètre de haut sur 90 cm de large, sur fond rouge, qui pour lui était la couleur symbolique de sa passion pour Simone. Et il l'a fait peu avant de mourir. Et c'est un véritable hôtel d'adoration qui contient des lettres, des photocopies des lettres de Simone, et des tas de documents, de photos qu'on ne comprend. Ou par exemple des billets d'autobus coupés à l'endroit où il avait compris qu'elle allait le quitter à cause de Sartre. Et c'est un véritable rébus aussi. Et puis enfin, j'ai trouvé un carnet de voyage qu'ils ont écrit à deux voix. Un objet absolument incroyable, puisque c'est la chronique d'un désamour annoncé pendant deux mois de voyage. Et quand je le comparais avec les lettres de Sartre, les lettres qu'elle adressait à Sartre, et puis aussi à d'autres documents comme Les Mandarins, son roman, parce qu'elle avait transposé son histoire dans Les Mandarins.
Elle faisait beaucoup d'autobiographies,
oui.
Quatre tomes en tout.
Et son autobiographie, La force des choses, mais qui était vraiment... Elle se présente toujours en victime de cet homme, évidemment. Elle a été plaquée, donc on peut la comprendre. Et à partir de ce puzzle, j'ai pu reconstituer la vérité, je pense. Mais j'ai intitulé roman parce que les lettres de Nelson Algren étant interdites de communication, je n'avais pas ce qui me permettait de faire la biographie de cette histoire.
La biographie deux, en fait,
donc,
de ce couple.
Pour répondre à votre question, c'est par honnêteté que j'ai préféré appeler ça roman, puisque j'ai reconstitué la partie manquante.
Et en même temps, c'est bien la forme d'un roman. Encore une fois, il y a ce souffle, il y a ce mouvement.
Bon. Oui, mais vie de ces deux-là est un roman.
C'est un roman. Alors justement, la vie de Simone de Beauvoir, il faut qu'on y revienne, parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément au fait de tous les aspects de cette vie assez extraordinaire, aux côtés de Jean-Paul Sartre, et disons-le, en grande partie, dans l'ombre de Jean-Paul Sartre,
oui.
Puisqu'on parle toujours de Sartre, et un peu moins peut-être de Beauvoir, et on a de Simone de Beauvoir une image sans doute un peu caricaturale. On entendra sa voix au micro d'Europe 1 dans les toutes dernières années de sa vie.
La voix mitraillette, comme
ouais,
disait Nelson Algren.
Ouais. Et avec ce très fort caractère extraordinaire qui se manifeste dès la plus tendre enfance, disons-le.
Oui, elle faisait des crises de rage à 3 ans au palais du Luxembourg.
au Luxembourg, parce qu'elle est en plus, elle est issue d'une bonne,
famille
voire très bonne bourgeoisie.
À l'époque,
oui.
Ils avaient encore une nourrice, mm-hmm. une bonne, et en fait, sa rage va venir aussi du fait que le père va perdre toutes ses économies avec toutes les histoires de l'emprunt russe. Ils vont être ruinés, ils vont devoir gagner le dernier otage.
Le grand-père fait banqueroute, ça c'est terrible.
Absolument. Donc le père doit descendre les seaux hygiéniques et les poubelles.
On change d'appartement, on change de tout.
On change d'appartement, on n'a plus de domestique, la mère doit coudrait reprisé. Mais malgré tout, dans la bourgeoisie, on sauve les apparences. Donc, on inscrit les deux filles au cours de cire, dans le sixième.
Il faut dire à quel point, à l'époque, c'est inhabituel que des jeunes filles suivent des études et ensuite, elle ira carrément à l'université, Simone.
Alors, oui, mais elle ira à l'université, mais dans la bourgeoisie, on n'allait pas en Sorbonne. Et voilà. On se mariait. Et son père lui dit, quand elle a 15-16 ans, de toute façon, ma fille, il disait aussi que sa fille avait un cerveau d'homme, tu ne peux pas te marier parce que t'es moche et tu n'auras pas de dot. Donc elle a un grand traumatisme et elle va être obsédée pendant toute sa vie. Et l'histoire avec Al Green le montre très bien par cette histoire du mariage impossible. Quand elle va rejoindre Al Green, pour la première nuit d'amour qu'elle espère, elle est déjà tombée amoureuse de lui quelques mois avant, elle prend l'avion et avant de prendre l'avion, elle va dans un magasin à New York pour s'acheter un vêtement, elle s'habille entièrement de blanc. Et on a la scénographie qu'elle se fait du fantasme.
Elle est dans une idée de mariage, une idée nuptiale.
Elle est dans l'idée de mariage et c'est l'histoire d'une jeune... Les fantasmes qu'elle a, c'est celle d'une jeune vierge 1900 avant sa nuit de noces. Et c'est pourquoi elle accordera tant d'importance à l'anneau qu'il lui donne au matin de la première nuit d'amour, le 10 mai 47. Et ils célébreront ensuite ce 10 mai dans leur cœur pendant toute leur vie,
on va revenir,
même après la rupture.
Évidemment, on va revenir longuement sur cette extraordinaire liaison, sur cette relation amoureuse et paranuptiale entre ces deux êtres. Mais poursuivons peut-être la vie de Simone de Beauvoir elle-même. Elle rencontre Jean-Paul Sartre très tôt sur les bancs de la fac, à la Sorbonne.
Oui, elle a 20 ans, oui. Et lui est fasciné par cette femme qui est la seule personne capable de lui tenir tête intellectuellement. Et à partir de là, elle va intégrer sa bande d'amis et il va...
Elle est fascinée d'emblée par Sartre,
elle
il faut
fascinée,
dire. Pour
oui.
elle, c'est un génie.
Oui, il a 4 ans de plus aussi. Mm-hmm. Il était fascinant, il était très drôle. Il savait que...
À défaut d'être beau.
À défaut d'être beau, mais la véritable arme des hommes pour la séduction, c'est le rire. Et donc, elle va devenir sa maîtresse. Mais assez vite, il va se lasser d'elle pour des raisons qu'on ignore. Et essentiellement, je pense, parce qu'il est polygame, comme beaucoup d'hommes de cette époque, il fréquente beaucoup les prostituées. Et comme il la sent très fragile émotionnellement, parce qu'elle a dû projeter aussi, sans doute, tous ses fantasmes de père, etc., il lui propose le fameux pacte qui va être à l'origine de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire que il lui dit vous et moi on peut faire tout ce qu'on veut, vous êtes mon amour nécessaire et moi aussi, c'est-à-dire que je ne vous abandonnerai jamais, c'est un pacte d'alliance, mais on peut faire tout ce qu'on veut sexuellement à condition de se le raconter. Alors, très rapidement, elle s'aperçoit que...
C'est pas très égal comme situation.
Voilà, les pactes sont très inégaux. Elle n'a pas ou très très peu de liaison. Et très rapidement, elle va se transformer selon un schéma commun, comme elle est bisexuelle, à rabattre un peu de ses jeunes élèves et à les lui repasser.
Oui, elle séduit de jeunes femmes qu'elle pousse un peu dans le lit de Sartre.
Séduire,
en fait.
Oui.
Où elle se laisse séduire. Oui. On va venir justement à ce ménage à lire, un ménage à trois, mais c'est plus que ça finalement, entre Sartre, Beauvoir et les autres.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous nous intéressons aujourd'hui aux amours de Simone de Beauvoir, toujours en compagnie d'Irène Frein, Franck.
Et le plus grand amour peut-être de Simone de Beauvoir, ne l'oublions pas, ce sont les lettres. C'est l'amour de la littérature dès son plus jeune âge. Elle se vit comme un futur grand écrivain. Elle veut devenir auteur.
Elle le déclare dès son adolescence.
Ouais, c'est ça.
Mais avec une nuance de taille pour aider les gens. C'est-à-dire qu'il y a chez elle la foi dans le fait que les mots peuvent changer le monde. Et elle a raison. Elle le changera d'ailleurs avec le deuxième sexe.
Est-ce qu'elle se fait le porte-parole de cette philosophie existentialiste mise sur pied par Sartre et...
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. Elle est son ambassadrice. Quand elle arrive aux États-Unis, elle est l'ambassadrice de Sartre à tel point que les intellectuels américains qu'elle rencontre, vous savez, toute une bande d'intellos de New York très exigeants, comme ils le sont toujours d'ailleurs, diront qu'elle parle comme un gourou.
Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu secte autour de Sartre.
Hein. Oui, et je crois que quand elle arrive, elle est à cette période-là de sa vie, on peut dire qu'elle est sous l'emprise de Sartre. Elle est son porte-parole. Il y a un côté, en effet, secte.
Avec ce pacte dont vous nous avez parlé, qui est assez étrange et qui ne va donc pas empêcher Sartre d'épouser celle qui devient un peu...
De rêver d'épouser.
Oui, c'est celle qui devient le mouton noir pour Simone de Beauvoir, oui. C'est Dolorès.
Dolorès était une sorte d'attachée de presse, très étrange, une aventurière qui avait épousé un médecin américain très riche et très laid, mais qui s'était empressée de le tromper, qui avait vécu dans la mouvance de Pierre Lazareff, qui était, vous le savez, à ce moment-là en exil pendant la guerre aux États-Unis.
Oui, parce qu'on est pendant l'occupation.
Pendant l'occupation, et Sartre déboule, envoyé par Camus pour le journal Combat, pour faire des reportages sur les États-Unis. Il rencontre cette femme, cette Dolorès, qui a été la maîtresse d'André Breton, quand même, et qui connaît Calder, qui connaît tout New York, qui a un carnet d'adresses qui ressemble à un bottin, et il se dit qu'il peut joindre l'utile à l'agréable. Et il parviendra, malgré les premières réticences de Dolorès, à la séduire. Et à partir de ce moment-là, Dolorès n'a qu'une idée, c'est de divorcer, de devenir Madame Sartre, qui est en train de devenir, grâce à elle d'ailleurs, une gloire planétaire. Et il se dit, Sartre, que Dolorès lui est plus utile que Simone. Et Simone, quand elle arrive aux États-Unis, non seulement elle est à bout de désir et de frustration, puisque son amant de l'époque est un ex-élève de Sartre, Bost. Bon, il en a marre, il trouve qu'elle n'a que Sartre à la bouche et il ne trouve pas ça très érotique. Et elle a 39 ans. Et à une époque où avoir 39 ans, c'est quand même se dire en 47.
On est sur la pente, oui.
Voilà. Et il faut savoir que Simone de Beauvoir, et c'est aussi sa grandeur, était une femme d'appétit. Tous les appétits, la bouffe, le sexe, la marche, les voyages. C'est cet aspect-là qu'on connaît très mal en France actuellement.
C'est vrai, c'est vrai.
Et elle aime la vie.
Et qui pourtant transparaît dans ses œuvres. Hein. Il y a cet amour de la vie, du monde, en quelque sorte.
Elle l'exprimera plus tard, mais à ce moment-là, elle est en période dépressive, car elle a fait un best-seller pendant l'occupation, l'invité, mais depuis, tout ce qu'elle fait, elle le rate. Elle doit sa survie matérielle, car elle n'a pas droit d'auteur, à l'argent que lui donne Sartre, qui a une autre femme. Donc elle peut être en droit de se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Elle a quand même, comme vous l'avez rappelé, été rayée de l'éducation nationale. Comment va-t-elle survivre? Et il y a cette frustration sexuelle qui va lui dicter les premières nuits de son arrivée à New York. Il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui lui arrive, c'est qu'elle va se lâcher.
C'est ça.
Tout simplement.
Votre roman, c'est l'histoire d'une libération.
Libération. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour montrer Simone se libérant de la figure officielle du castor, cette figure que nous sommes la seule à connaître, oui. Nous, Français.
C'est-à-dire que Simone de Beauvoir, elle se résume au castor, essentiellement.
Voilà, et Simone, elle a été Simone, dans rieuse, celle que j'ai trouvée dans les archives de Columbus, heureuse, déjantée, joyeuse, dans les bras de Nelson Algren.
Alors pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'on parle du castor là, tout le monde n'a peut-être pas des souvenirs du baccalauréat, donc le castor, c'était le surnom que lui avaient donné ses condisciples à la Sorbonne, dont Sartre d'ailleurs, et ça venait de beaver, qui veut dire castor en anglais.
En anglais, et qui a fait beaucoup rire Nelson Algren, parce que ça a une signification un petit peu porno
et
en
oui,
anglais.
Évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique, ça a un tout autre sens quand on parle des castors. Nous, dans un instant, nous racontons, je vais essayer de vous situer un peu les choses et de vous raconter à quoi ressemblaient les États-Unis au début de l'année 1947 quand Simone de Beauvoir y débarque.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Et nous suivons Simone de Beauvoir dans les États-Unis de la fin des années 40.
Et oui, au moment où Simone de Beauvoir arrive aux États-Unis, donc en février 47, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale est agité en profondeur par des peurs et par des angoisses de nature politique. Ces peurs sont liées indirectement au choc créé 18 mois plus tôt, il ne faut pas oublier que c'est très récent à l'époque, par les explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki, et plus directement évidemment à la glaciation des rapports avec l'URSS de Staline. On est au tout début de la guerre froide, il s'agit donc bien au fond du fond de la peur d'une nouvelle guerre. Cette peur qui prend des formes parfois irrationnelles, c'est la grande vogue des soucoupes volantes à l'époque et du péril extraterrestre, mais aussi très rationnelle. Le 22 février de cette année 47, c'est-à-dire le jour même où Simone de Beauvoir rencontre Nelson Algren, le président Harry Truman lance le Loyalty Programme. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une vaste et profonde enquête dans tous les rouages de l'administration fédérale pour tenter d'y débusquer ceux qui, aux yeux de l'administration Truman et disons-le surtout aux yeux du FBI de Hoover, passent pour ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les communistes. 3 ans avant que McCarthy et ses épigones ne lancent véritablement la chasse aux sorcières, le gouvernement fédéral s'attaque donc déjà à ce qu'il appelle l'infiltration radicale. C'est le terme qu'on a dans tous les documents de l'époque. Alors un mois plus tard, le président Truman va plus loin. Il lance le programme de loyauté et sécurité. Le décret présidentiel 98-35 met en place tout un programme destiné à contrôler la loyauté des fonctionnaires, tant au moment de leur entrée dans l'administration que pendant tout le cours de leur carrière. Dans chaque ministère va être instituée une commission de contrôle de la loyauté. Un petit peu quelque chose de l'Inquisition dans cette affaire. Commission dont les décisions sont susceptibles d'un appel devant une instance centrale qu'on appelle le Loyalty Review Board. Disons-le clairement, pour lancer la procédure, il suffit d'une simple dénonciation. Et cette dénonciation peut parfaitement rester anonyme. Vous pensez si c'est la porte ouverte à tous les règlements de compte. Voici les chefs d'accusation prévus par le décret. Le sabotage, l'espionnage, la trahison, se faire l'avocat du renversement du gouvernement par la violence, agir en vue de servir les intérêts d'un autre gouvernement, on se demande bien lequel, ou simplement être affilié à un groupe défini par le ministre de la Justice, l'attorney général, comme totalitaire, fasciste, communiste ou subversif. Quand on sait que l'essentiel de la contestation américaine à l'époque vient des communistes, voilà ce qui s'appelle noyer le poisson. Alors, ce qu'il faut se hâter de préciser, c'est que tout ça n'est pas vraiment nouveau. Dès 1936, le grand prédécesseur de Truman, lui aussi démocrate, Franklin Roosevelt, avait donné à Edgar Hoover, l'indéboulonnable patron du FBI, la mission de surveillance de l'ennemi intérieur. À l'époque, on y avait vu à juste titre une petite révolution, car 12 ans plus tôt, en 1924, l'administration républicaine avait au contraire interdit au FBI toute ingérence dans les affaires politiques. Eh bien, à la faveur de la guerre, la mission intérieure, donc politique, du FBI va être renforcée dès 39 par un décret présidentiel. On est là dans le contre-espionnage, dans le cadre de ce qu'on appelle la lutte contre la cinquième colonne à l'époque. Mais en 1947, c'est un véritable blanc-seing que Truman donne à Hoover pour mener sa guerre intérieure contre le communisme. Ce qu'il faut préciser, c'est que le décret du 22 mars 1947 correspond sur le plan intérieur à un durcissement de la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Union soviétique. 10 jours plus tôt, le président Truman a lancé sa doctrine de l'endiguement du communisme, ce qu'on appelle le containment. Certains disent que le décret de loyauté serait même une manière de faire passer à l'intérieur la pilule de ce qui pourrait être vu à l'extérieur comme une forme de bellicisme, un nouveau pas vers la guerre. En vérité, tout cela est lié à un climat, à des affaires, à des scandales qui se sont multipliés depuis quelque temps. Il faut rappeler l'affaire Bentley. En 1945, cette Miss Elizabeth Bentley qui se présente à un bureau du FBI à New Haven dans le Connecticut et qui demande à être entendue au sujet de l'organisation d'espionnage anti-américaine. Alors on la fait patienter, on la renvoie. C'est d'ailleurs incroyable ce qui se passe avec Bentley puisqu'elle est obligée de se présenter à 4 reprises au bureau du FBI avant d'être enfin entendue le 7 novembre 1945. Et là, elle déclare qu'elle-même participe depuis 1939 aux activités d'un réseau d'espionnage communiste et elle fait des révélations assez incroyables. Elle raconte que par elle sont passés à Moscou toutes sortes de secrets, notamment la date du jour J, le débarquement en Normandie, les plans de la forteresse volante B-29, enfin etc., etc. Ça fait déjà mauvais effet cette histoire. Mais il y a aussitôt après, ce qu'on va appeler l'affaire canadienne à partir de septembre 1945. Cette fois, c'est un certain Igor Gouzenko qui est employé du chiffre, c'est-à-dire qu'il est l'homme qui code les messages à l'ambassade soviétique d'Ottawa, et lui raconte qu'il y a tout un grand réseau monté au Canada pour informer l'Union soviétique de tout ce qui se passe dans les rangs alliés, un réseau qui transmet à Moscou des secrets importants, notamment des secrets militaires. Et la principale recrue de ce réseau, c'est le savant atomiste Alan May, qui se trouve être membre affilié du Parti communiste et qui a transmis pendant la guerre et à la fin de la guerre surtout un certain nombre d'informations incroyables aux soviétiques. Notamment, il leur a même donné des échantillons microscopiques d'uranium 235 et 233 qui sont arrivés à Moscou juste après l'explosion d'Hiroshima. Vous voyez un peu le scandale que tout ça peut créer. C'est le 4 mars 1946 qu'a été découverte toute cette affaire, après quoi le savant Alan May a pu être arrêté à Londres. Dès le 1er août 1946, le Congrès va voter la loi MacMahon qui entoure d'un secret absolu toutes les fabrications militaires. Et ça rigole pas, hein, la loi MacMahon, c'est sous peine de mort. Donc là, on revient à des lois qui sont des lois de temps de guerre, en vérité. Et puis début 1947, donc, le président Truman ordonne cette grande enquête sur le loyalisme des 14 000 fonctionnaires fédéraux. C'est que le mouvement de suspicion... Le mouvement de doute ne va pas s'arrêter là, puisque dès le 10 avril de cette année 47, un certain Ronald Reagan, qui préside un syndicat d'acteurs à Hollywood, va accepter de dénoncer au FBI toute activité communiste au sein de son organisation. Le terrain est prêt pour le maccartisme et pour la prochaine chasse aux sorcières. C'est donc dans ce climat tout à fait particulier que Simone de Beauvoir se met à fréquenter sur le sol américain un auteur, Nelson Algren, qui, de son côté, ne cache pas ses sympathies communistes. Vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle tout ça se trame. Je suis certain, en vérité, que ce climat de psychose et d'extrême paranoïa n'était pas pour déplaire à Simone de Beauvoir.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. You know you completely stolen my heart. Morning, noon, and night time too, till you're wondering what to do. That's the way I felt right from the start.
Nat King Cole sur Europe 1, Darling, je vous aime beaucoup.
C'est tout à fait indiqué. Alors, il faut savoir que, comme nous l'écrit Irène Frein, depuis 2 mois, on disait que Staline allait déclencher une troisième guerre mondiale. On criait qu'il fallait encercler au plus vite les grandes villes américaines de missiles nucléaires pointés sur Moscou. À Washington, Hoover et les autres, ajoute Irène Frein, étaient tous sur les dents, prêts à fondre sur les gens comme Algren, écrivain, cinéaste, journaliste, qui avait un moment côtoyé le Parti communiste. Et évidemment, on se pose la question en haut lieu, qui est cette Frenchie qui débarque de Paris et qui s'approche d'emblée de cet écrivain communiste. Alors, je dis d'emblée, c'est pas tout à fait vrai. Il faut raconter dans quelles circonstances a lieu la rencontre, Irène. C'est très incroyable.
Alors, c'est l'histoire d'une femme qui débarque de l'idéologie existentialiste très très sévère de Saint-Germain-des-Prés, complètement coincée.
Quand on voit les photos, elle est vraiment pas rigolote.
Hein. Pas du tout. Et puis qui, en même temps, n'a qu'une envie, c'est de s'éclater, parce que ça fait quand même 20 ans qu'elle est frustrée et c'est le dernier moment. Elle arrive là et elle est dans un hôtel de luxe puisque la diplomatie française lui paie une tournée en Amérique et parce qu'elle est jalouse de Sartre et de sa maîtresse, elle veut piler Sartre par dépit sur un point, il n'a pas réussi lui à écrire sur les bas-fonds américains et il lui faut un guide des bas-fonds, il n'a que 24 heures, elle ça l'affole pas hein. 24 heures, je vois les bas-fonds, je fais un livre sur
alors,
les bas-fonds.
Ce qu'il faut dire c'est qu'il y a eu ce dîner raté chez Mary Guggenheim que vous racontez, c'est à pleurer de rire. Alors, on est vraiment dans la comédie
rire,
hein,
oui.
Vraiment.
Mary Guggenheim, très grande famille richissime américaine, reçoit Simone de Beauvoir dans le cadre de Harper's Bazaar, n'est-ce pas, et elle s'essaie à faire la cuisine, parce que quand même, elle a des principes, on reçoit bien.
On dirait un peu le climat du film La Corde d'Hitchcock, hein, c'est ça.
Absolument, et elle rate absolument l'entrée, le plat principal, et le pire, c'est le sabayon. Il faut dire qu'en matière de cuisine, ceux qui nous entendent savent qu'il n'y a rien de plus difficile à faire qu'un sabayon, ne vous y risquez pas, s'il vous plaît. Elle le rate, et Simone est absolument furax, parce qu'elle adore bouffer, et Donc, Mary Guggenheim dit, pour remplir la conversation, quelle est votre prochaine étape dans votre tournée? Et Simone de Beauvoir, avec sa voix éraillée et sa dent cassée, je vais vous dire, elle avait une dent cassée à l'époque, dit, Chicago. Oh, mais je connais très bien quelqu'un à Chicago. Et pourquoi c'est son amant? Il s'appelle Nelson Algren. Alors, Beauvoir dit, bon, je veux son adresse, donnez-la-moi. Et à ce moment-là, Mary Guggenheim s'est dit, je vais quand même pas donner l'adresse de mon amant.
Ah oui, ça devient dangereux, cette histoire.
Elle se dit, oh, mais de toute façon, elle est vieille, et elle a une dent cassée, c'est pas grave. Elle donne l'adresse de son amant à Simone de Beauvoir.
Et le numéro de téléphone.
Et le numéro de téléphone. Arrivée à Chicago, donc elle appelle Beauvoir, mais elle a un accent anglais coupé au couteau.
Elle passe par un standard, on est encore dans le système des centraux téléphoniques.
Standard, hein. J'en ai trouvé la photo d'ailleurs, c'était assez amusant. Et donc, on la met en communication avec Algren qui vit dans un quartier bourré de vieux Polonais qui ne savent pas très bien parler anglais. Hein, ce sont des émigrés d'Europe de l'Est, enfin, d'un quartier un peu yiddish comme ça. Et elle parle, mais pire que Maurice Chevalier quand même. Donc il faut imaginer, I want to see you, Mr. Algren.
Il dit c'est une erreur de numéro, il raccroche.
Ouais, et il raccroche. Alors, il faut dire qu'il a un caractère de cochon et qu'il s'est isolé là pour écrire sur les drogués. Un sujet qu'il passionne et dont les Américains, les écrivains américains n'ont jamais parlé. Et les paumés, et les exclus. Elle va faire 3 fois le numéro de téléphone, 3 fois il va raccrocher avec une certaine brutalité, et elle va quand même insister, parce que Simone de Beauvoir, c'est une tortue de première. Et donc, à ce moment-là, elle appelle la standardiste, elle dit, vous faites, je veux parler à cette personne, la standardiste va trouver le moyen de faire l'intermédiaire, avec un accent de Chicago parfait, il va prendre Simone de Beauvoir, et finalement, il va dire oui. Et il ne sait pas pourquoi il dit oui à cette voix éraillée de Simone de Beauvoir. Et lui, qui vit dans un bouge, va se retrouver dans l'hôtel le plus chic de Chicago, qui existe toujours, qui est ruineux. Je peux vous dire que j'y suis allée très précautionneusement. Mais enfin, vous voyez, il faut avoir beaucoup de dollars, ne serait-ce que pour boire un jus de tomate.
Et là, il se retrouve face à cette femme tout seul.
Il va l'épier d'abord, parce qu'il se dit c'est une affaire du FBI. Et puis finalement, il ne sait pas pourquoi il y va. Et elle lui, il ne se comprend pas.
Il pense qu'elle pourrait être un agent du FBI, oui, destiné à le piéger.
Piéger. Et puis finalement, il y va. Il ne sait pas pourquoi. C'est la pulsion. Cette femme lui plaît. Alors, il faut voir qu'il est un homme à femme à l'époque. Hein. Nelson Algren a une beauté ravageuse, un charme encore plus ravageur. Et depuis l'âge de 15 ans, les femmes se jettent sur lui comme des mouches. Il n'a aucun problème avec les femmes. Et si tu s'es isolé, c'est aussi pour éviter de séduire trop de femmes, pour se dédier complètement aux pauvres de l'Amérique, dont il veut faire l'héros de son roman, qu'il a du mal à écrire. Et donc là, il va se retrouver face à face avec cette femme aux yeux bleus magnétiques, il comprend rien de ce qu'elle dit, elle comprend rien de ce qu'il dit. Et puis à un moment, il y a un mot magique, Marseille. Hey. Elle a été prof à Marseille. Et lui, il était à Marseille à la fin de la guerre, de Barchénoir, les vieux quartiers à bordel. Il adorait les quartiers à bordel et tout ça. Et à partir de ce moment-là, quelque chose de magnétique. Et ça va être le coup de foudre, mais absolu, comme on n'en voit que dans les romans.
Alors, un coup de foudre évidemment mental, mais qui se transforme très vite en passion physique.
Physique.
Ce qui, pour Simone de Beauvoir,
absolument,
est quand même pas très fréquent.
Elle est frustrée. et elle va dire ensuite, ça a été le premier orgasme de ma vie. Et sans doute, toute cette passion va être à la fois une passion érotique, émotionnelle, intellectuelle. Ils vont beaucoup échanger. Et à ce moment-là, elle veut écrire aussi un livre sur les femmes. Elle appelle ça un livre sur les femmes et il lui répond. Dès ce moment-là, la première nuit, si vous voulez écrire un livre sur les femmes, il faut appliquer à ce livre les méthodes que l'écrivain Gunnar Myrdal a appliquées à l'oppression des Noirs. Et il va lui donner cette idée-là qu'elle va appliquer.
Ça va être le deuxième sexe, finalement.
Ça va être le deuxième. Il va lui parler de la contraception aux États-Unis et du planning familial, parce que les féministes américains, les médecins américains sont très en avance. Il faut voir qu'il y a déjà les recherches sur la pilule sont commencées. La pilule sera mise au point en 51. Donc on est en 47, hein. Elles sont commencées depuis 7-8 ans. Et autre chose, il va lui envoyer, alors qu'il est pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent, il va se ruiner dès qu'elle va partir pour lui envoyer des livres des féministes américaines. Et finalement, c'est la jeunesse du deuxième sexe. Et le fait qu'elle ait eu un orgasme avec lui va l'amener à elle, Simone de Beauvoir, à faire ce qu'aucune femme en France n'avait fait, aucun écrivain, à aborder de façon frontale, en écrivant, les problèmes de la sexualité. Elle aura pu peur de prononcer, d'écrire des mots comme vagin, orgasme, clitoris, etc.
Ce qui va tant horrifier François Mauriac et d'autres, bien
oui,
entendu.
Oui, qui écrira, quand le livre paraîtra, cette phrase abjecte, qui regrettera d'ailleurs beaucoup par la suite. Enfin, je sais tout sur le vagin de votre patronne. Mais ça, c'est... Je vous parle d'un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître.
Quoique, alors justement, il y a cette sexualité entre eux, il y a cette découverte de toutes sortes de lieux étranges, totalement exotiques pour Simone de Beauvoir, beaucoup de voyages, et puis elle va le faire venir aussi à Paris.
À Paris.
Et ça va être à son tour à lui de découvrir le milieu existentialiste.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous évoquons sur Europe 1 la grande liaison de Simone de Beauvoir avec l'américain Nelson Algren.
Et oui, dans Beauvoir in Love, un très beau livre d'Irène Frein, publié chez Michel Lafond. Alors, je vous promets depuis le début qu'on va entendre la voix de Simone de Beauvoir. C'est la voix d'une vieille dame qu'on va entendre, hein, puisque c'était au micro d'Europe 1 le 30 octobre 1985, donc vraiment très peu de temps avant sa mort. Et elle parlait justement du harcèlement sexuel, de ce qu'avait subi sa sœur étant jeune. Elle avait été attaquée, si je puis dire, sexuellement. Voilà ce que dit Simone de Beauvoir.
Quand ma sœur était un très très jeune peintre, elle était très jolie d'ailleurs, et ses peintures étaient intéressantes, enfin, elle promettait, et alors on l'avait mise en relation avec un marchand de tableaux, et le marchand de tableaux a commencé à s'extasier sur ses toiles en disant « c'est magnifique, on va vous faire une grande exposition ». Alors elle était évidemment ravie, elle avait 24-25 ans. Et puis après, il lui a dit « Allons prendre un verre à côté ». Et il a passé dans son cabinet particulier qui était à côté. Et là, il y avait un divan. Et bon, bah, ça a été sans équivoque. Et ma sœur a dit tout de suite « Bon, écoutez monsieur, moi je vends mes tableaux, mais je ne vends pas moi-même ». Et l'exposition n'a pas eu lieu.
Et vous pensez que ce harcèlement sexuel est en augmentation ou simplement qu'on en parle davantage aujourd'hui parce que les femmes osent davantage en parler ?
Je crois que c'est plutôt parce que les femmes osent davantage en parler. Parce qu'autrefois, aucune femme n'aurait osé dire « mon patron me pince les fesses », tout le monde aurait ri.
Évidemment, à ce moment-là, en 1985, Simone de Beauvoir était devenue une sorte d'icône du féminisme, oui. Ce qu'elle n'était pas encore tout à fait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Et ce qui est frappant dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un écho extraordinaire avec ce qui se passe en Inde actuellement. Voilà. Hein, ben, la prise de conscience actuelle, c'est exactement ce qu'elle raconte. Moi, j'ai vécu l'Inde. Quand je faisais mes enquêtes sur Devi, qui avait été violée je ne sais combien de fois par des policiers et autres, hein, Phoolan Devi, la femme bandit indienne, à l'époque où je faisais cette enquête, en Inde, se révolter contre le viol était impossible et moi je faisais mon enquête dans le secret. Ce que je voudrais souligner là, c'est à quel point cette femme contradictoire qu'est Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe a fait pour les femmes. Et dans sa vie privée, vous imaginez, en 47, elle doit choisir entre Sartre, c'est-à-dire son boss et son
ami. Il est toujours là, Sartre.
Il
c'est
est
ça
toujours
qui est incroyable.
Là. Hein. Et il est devenu terriblement jaloux.
À communiquer avec lui, elle rentre bien sûr à
voilà.
Paris. Elle va faire venir quand même
oui, parce Green. Elle veut concilier, elle veut avoir le beurre et l'argent du beurre, ouais. Comme toutes les femmes qui ont en fait un mari et un amant, quoi.
Hein? Alors, quand il vient, elle lui fait vraiment le grand jeu. Hein. C'est-à-dire que de même que lui, il l'a emmené dans les clubs de jazz américains, oui. elle lui fait visiter tout ce qu'on...
Mais oui, mais lui, il l'a surtout emmené dans les bas-fonds de l'Amérique.
Et elle est un côté plus touristique.
C'est carrément...
La tour d'argent.
La tour d'argent, la Pérouse, le restaurant de la tour Eiffel, oui. Etc. Et comme elle a...
Il y a un côté bourgeois chez Simone de Beauvoir qui ne peut pas s'en aller, quelque
Écoutez,
part.
Moi, je me mets à sa place. Elle veut le retenir.
Eh oui.
Il avait sacré les femmes pour elle pendant un an et demi, ça a été un sacrifice pour lui énorme. Enfin, un sacrifice de son point de vue d'homme, hein, de macho, entendons-nous bien. Et en fait, elle est repartie voir Sartre. Donc, il a pris une maîtresse à moi. Et il le lui a dit. Et elle s'est sentie mais complètement dévalorisée comme femme. J'ai trouvé une lettre non publiée parce que l'édition Gallimard ne comporte pas 48 des lettres que moi j'ai retrouvées, oui. Que j'ai vues, où elle dit à Nelson « Je suis tellement dépendante amoureusement de vous que je me sens bête comme femme, que c'est bête une femme. » Bon, elle le dit en d'autres termes, hein, mais je résume.
En substance, c'est ça.
En substance, c'est ça. Mais c'est elle écrit ça 3 semaines avant la publication du deuxième siècle. Et quand il arrive, elle lui fait
Quel paradoxe.
Elle veut le retenir.
Et lui n'a Dieu que pour Juliette Gréco, en l'occurrence. Il faut dire qu'on est à Saint-Germain-des-Prés en
49. Tout le monde à l'époque n'avait Dieu que pour Juliette Gréco, et c'était fort bien mérité. Et quand il va voir Sartre, il va avoir ce mot, il va le décrire ainsi. Nelson Algren, il m'a fait l'effet d'un marchand de chaussures de Chicago à la veille de la faillite. Et alors, il ne va pas du tout s'entendre avec le milieu existentialiste qu'il faut dire. Val Chambry va, par exemple, lui organiser un combat de boxe au sommet d'un immeuble de Paris sans bastingage, là, près de Saint-Xavier. Et François Xavier, il souffrait de problèmes d'équilibre, va revenir de là horrifié. Malgré tout, il va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Puis au bout d'un mois,
il repart.
Il en a assez. Il va partir au bout de 3 mois. Ça va être un désamour, quoi. Un lent désamour.
Elle retourne, elle, quand même aux États-Unis, mais...
pour tenter de le reconquérir. Et là, ça va tourner à Qui a peur de Virginia Woolf.
C'est ça.
Elle va le décrire, d'ailleurs, plus tard dans Les Mandarins. Moi, j'ai retrouvé les lieux. Et ils sont inchangés. Et là, je peux vous dire que c'est l'émotion qui m'a conduite à écrire ce livre, c'est-à-dire que, en fait, c'est l'histoire d'un amour impossible, contrarié en grande partie par Sartre, et qui est, comme tous les amours impossibles, de ces amours qu'on n'oublie jamais, par une femme qui va devoir tout inventer, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de magazine féminin ni talk show pour savoir comment je fais entre mon travail et mes amours. Et ce que je voudrais souligner là, c'est l'inventivité extraordinaire de Simone de Beauvoir. Son courage, elle était seule, elle n'avait pas de modèle. C'est notre grand-mère à tous qui, et surtout à toutes. Mais ce qu'on fait pour les femmes, on le fait toujours pour les hommes. Ce qui est bien pour les femmes, c'est toujours bien pour les hommes. Et je voudrais lui rendre hommage. Et c'est Simone que j'aime, hein, personnellement. C'est pas trop le castor.
Oui,
même
évidemment.
Si je rends grâce au deuxième sexe.
Et vous montrez bien qu'il y a ces deux femmes en elle.
Éclivée.
Et celle que vous mettez en évidence, c'est celle que moi, je ne connaissais pas du tout, pour tout vous dire. Hein. Elle devient tellement plus sympathique, intéressante et vivante. Alors, leur histoire d'amour s'arrête avant le milieu des années 60. Après, ils vont vivre encore longtemps l'un et l'autre, hein, puisque lui meurt seulement en 80. Elle en 86, mais il n'y a plus du tout de lien. Et elle est même chargée d'une forme d'aigreur et de colère contre lui.
L'un et l'autre. Et lui, à la fois, il fait ce fameux collage d'adoration et en même temps, il meurt la veille du 34e anniversaire de la première nuit d'amour.
Ce fameux 10 mai.
Et ça se passe en 81. Donc ça, le 10 mai 81, sa mort va passer totalement inaperçue en France. Et il meurt après avoir piqué une colère contre elle auprès d'un journaliste.
Ouais.
Et d'une attaque cardiaque suivant une colère.
Ce qui nous permet d'en avoir la preuve et la trace, en fait. En plus,
absolument. Hein. On a tout le témoignage du journaliste. Et en fait, il a gardé tous les poèmes qu'il lui a écrits. Il a écrit des tas de poèmes inédits que j'ai trouvés, qui sont absolument éblouissants. C'était un homme tendre. Il avait tout donné pour elle. Mais c'était un homme pour qui l'amour était une religion. C'était tout l'amour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'était le dernier grand romantique des années 50.
Et il était pour Simone de Beauvoir, ce qui quand même...
Voilà. Et
pas
elle, quand même... Elle, quand même, elle s'est fait incinérer avec ce fameux anneau, un cas.
Vous dites ce fameux anneau, il nous reste 40 secondes, mais dites-nous d'où il venait, cet anneau.
Sans doute d'un de ses tiroirs, si ça se trouve, il l'avait acheté pour une autre.
Il
lui a passé au doigt, au matin, de cette...
Un anneau antique qui venait des Incas, en fait.
Oui,
hein.
Absolument. Et donc, c'est à dire à quel point il avait eu ce coup de foudre, et il s'en est jamais remis, et elle non plus. Et je trouve formidable que... deux écrivains du XXe siècle puissent vivre encore des choses comme ça et écrire aussi des livres aussi extraordinaires qu'ils ont écrits à cause de cet amour, dont l'un de ces livres, Le Deuxième Sexe, parce que lui, il va écrire aussi un livre génial sur les exclus, sur les drogués.
Mais donc, ils se sont inspirés mutuellement.
Ils se sont inspirés, mais ce livre, Le Deuxième Sexe, qui a changé le monde et qui continue de le changer. Et encore une fois, aujourd'hui, je parlerai de ce qui se passe en Inde. Bravo les femmes indiennes.
Eh oui.
Et bravo les hommes indiens qui commencent à dire non au viol.
Le feu d'Irène Frein au micro d'Europe 1
voilà.
Et dans Beauvoir in Love, c'est publié chez Michel Lafon. Merci beaucoup Irène Frein d'être venue nous faire partager ce grand coup de foudre à tous les sens du mot.